voilà, nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Galère, 88.4 à Marseille, et sur Internet via le site de la radio, www.radiogalere.org, et le DAB, voilà, tout y est. Et bien entendu, on ne peut pas commencer cette chronique sans dire que nous avons vécu, le monde entier a vécu une semaine exceptionnelle. Alors, je me souvenais qu'il fut un temps, on chantait dans les rues « Chaud, 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 le printemps sera chaud ». Alors, le printemps, c'est encore pour cette semaine. Alors, on ne chante plus ça, mais effectivement, il est d'une chaleur très, très largement au-dessus de la moyenne. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque entre mardi dernier et cette semaine, les événements se sont accumulés, accentués, ont pris des proportions, on peut le dire, planétaires, même s'ils sont pour l'instant localisés, mais il y a beaucoup, beaucoup de mouvements autour de tout ça. Et donc, effectivement, on est dans un état de désordre international assez complet. À telle enseigne que, par exemple, que cette nuit, le président des États-Unis, un certain Donald Trump, a quitté en pleine nuit le sommet du G7 qui était convoqué donc dans l'Alberta au Canada, en disant qu'il avait affaire. Alors Macron, on sait, alors il n'a pas dit quoi. Et Macron qui est, alors c'est du Macron tout peu. Macron, il s'est cru président du G7. Il s'est mis à parler en disant oui, de toute façon ça continue, on est là, on a les affaires bien en main et tout. Alors qu'il n'avait rien compris. L'autre lui avait sûrement rien dit du tout parce que maintenant je pense qu'il le déteste carrément. Ah, c'est peut-être partagé d'ailleurs, mais leurs rapports sont très très mauvais. Bon, Macron a dit il n'est pas là, c'est moi qui parle. Et parce que Macron est toujours prêt à mettre son grain de sel sur n'importe quoi. Alors il reste donc un G6 où il y a encore un Japon, mais qui est un peu mal à l'aise. Alors on a vu par rapport aux événements dont on va parler plus en détail, que le Japon était relativement prudent et ne hurlait pas avec les loups, pas plus d'ailleurs que la Corée du Sud, parce qu'ils sentent bien que les événements graves sont en cours et qu'un rééquilibrage des relations internationales se profile. Et donc il est très clair, à la fois dans la bouche du nouveau président sud-coréen et du nouveau premier ministre japonais, qu'ils vont être de plus en plus prudents dans le fait qu'on ne suit ou on ne suit pas nécessairement la politique des États-Unis. On les connaît, on a des troupes des États-Unis sur notre sol, on paye, ça nous coûte cher, mais ça nous engage indirectement dans des conflits internationaux dans lesquels on n'a pas envie de s'installer. Alors, ils en disent pas plus pour l'instant, mais c'est
Trump
très...
Trump a regretté l'absence de la Russie.
Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Ah oui, alors Trump a regretté, parce qu'il a dit, il y a eu un moment... Alors oui, c'est vrai, tu as bien fait de le souvenir, c'est Habib qui nous souvient de ça. Effectivement, Trump, avant de partir, a dit, avant, c'était un peu plus tranquille, parce qu'on avait invité la Russie au G7, c'était devenu... Pas le G8, on disait, vous savez, la diplomatie, c'est plein de subtilités, c'était le G7 plus 1. Ça voulait dire que c'est un peu la pièce rapportée aussi, c'est le canard dans la couvée, c'est l'ami de la famille qu'on n'aime pas, etc. G7 plus 1. Bon, alors le G7 plus 1, il a fonctionné un certain nombre d'années. Et puis, en 2014, à la suite du rattachement de la Crimée à la Russie, la Russie a été mise à la porte, on est revenu à G7. Bon. Ouais. Et donc, effectivement, il n'avait pas tout à fait tort de dire, parce qu'effectivement, la Russie était venue de bonne foi en disant « Vous me demandez mon avis, je le donne ». Et ça me permet d'évoquer, je ne sais pas si tu l'as encore en tête, ce souvenir d'un G7 plus 1 où Poutine avait accueilli à sa façon un certain Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy arrivait à son premier G7 plus 1, donc on était donc en 2007, et il avait commencé à faire du Sarkozy, c'est-à-dire « moi j'arrive, je mets les pieds dans le plat, je dis ce que j'ai à dire, c'est moi le maître du monde », et l'autre l'avait pris dans un coin, et notre Sarkozy était ressorti de cet entretien un peu penaud, ouais, sans dire ce qui lui était arrivé, mais manifestement, enfin je résume, c'est très bien, il s'était fait tirer sérieusement les oreilles, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, ça induit, et c'est bon à rappeler puisqu'on parle d'histoire diplomatique, ça induit une attitude très très particulière de Sarkozy l'année d'après. Parce qu'il faut savoir que l'année d'après, donc on est en 2008, la Russie est toujours dans le G7 plus 1 et on a l'inauguration des Jeux Olympiques de Pékin. On est en juillet 2008. Bon. Et au moment de cette inauguration des Jeux Olympiques de Pékin, le gouvernement géorgien de M. Saakashvili, donc qui est un agent des États-Unis, carrément stipendié par les États-Unis, décide d'attaquer deux de ses provinces qui sont irrédentistes, qui ne veulent pas lui obéir, qui sont l'une l'Ossétie du Sud, l'autre l'Abkhazie. Et il décide ça, et il se trouve que, malgré l'absence de Vladimir Poutine, qui est sagement assis dans la tribune d'honneur à Pékin, le président par intérim, il n'est pas président, il est Premier ministre, un certain Dmitri Medvedev, dont on se souvient, décide d'une réaction militaire de la Russie qui va défendre les deux provinces indépendantistes. Pas plus que ça. Ils mettent des troupes et donc l'offensive géorgienne s'arrête là. Et notre Sarkozy national, qui a bien compris la leçon de l'année d'avant, ne va pas protester. Il va dire ah « ben c'est vrai qu'ils ont eu raison d'intervenir, c'est comme ça, il n'a pas du tout été question d'envoyer des troupes, des parachutistes défendre le Saakashvili en question ». Donc il a avalé, ce qui veut dire que la leçon de l'année d'avant avait porté. Il avait dit, il avait entendu « qui s'y frotte, s'y pique », comme on dit. Hein, c'était exactement ça. Bon, là, je vais dans le passé lointain, ouais, mais c'est ouais. intéressant de le resituer.
Oui,
et c'est pour ça que Trump, avant de quitter, de reprendre, de sauter dans son avion pour retourner à Washington, a dit « quand il y avait Poutine là, on pouvait discuter les yeux dans les yeux et parler ». Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas parlé. Et je vais y revenir un peu plus tard, puisqu'effectivement, je pense que c'est Poutine lui-même qui a appelé Trump dans le courant de la semaine un jour particulier. Je vais le resituer ça dans l'ensemble des événements de la semaine. Bon. Voilà donc pour l'agitation qu'un président des États-Unis quitte le G7 sans préavis, en pleine nuit, ça ne s'est jamais passé, et donc il doit y avoir une situation quand même un peu préoccupante.
Oui.
Alors qu'on peut analyser comme, est-ce qu'il s'aperçoit que quand il n'est pas à Washington, certaines souris dansent, c'est une hypothèse, est-ce qu'il est à la veille de décisions bien plus graves et il faut absolument qu'il soit là pour partager avec ses collaborateurs? Est-ce qu'il faut qu'il élimine des gens qui veulent l'emmener sur un chemin qu'il ne veut pas prendre lui? On a toutes les hypothèses possibles, c'est-à-dire qu'il y a probablement un énorme capharnaüm à Washington, et malgré les grands mots, les attitudes guerrières, fières à bras et tout de Trump, je pense qu'il n'est pas du tout sûr de la façon dont il peut gouverner. Et donc ça, on le verra dans les jours qui viennent, mais sa fuite, puisqu'il s'agit bien d'une fuite, on ne quitte pas un sommet du G7 comme ça, heureusement c'était tout près, il y avait juste la frontière à traverser, sa fuite en dit long, mais on ne peut pas encore en donner les raisons. On en subodore quelques-unes, dont celles que je vous dis. Peut-être M. Maga n'est pas si Maga que ça, et il n'est pas si great again, parce que la discipline ne règne pas à Washington, entre tous les centres de pouvoir, on le sait, le Pentagone, le département d'État, le Congrès, les ci, les ça, les sénateurs qui disent que la politique des États-Unis, ça doit être ça. Il y a le sénateur fou, là, le sénateur pro-Zelensky, qui s'appelle Lindsey Graham, qui croit que quand il dit quelque chose, il est un sénateur sur 100, que la politique des États-Unis va s'en suivre. Bon, donc il délire tout seul. Bien. Donc on en était là dans les derniers signes donc, qui sont de cette nuit, de cette extrême agitation internationale. Mais la forme effectivement qu'elle a prise, c'est l'attaque massive d'Israël décidée sur l'Iran. Alors l'attaque massive d'Israël sur l'Iran, elle a été décrite relativement abondamment. Je vais quand même en donner un certain nombre de caractéristiques. Une des premières caractéristiques, c'était d'éliminer un certain nombre de gens très très importants de la direction iranienne à leur domicile en famille, c'est-à-dire sans préavis. Ils n'étaient pas protégés, ils n'étaient pas dans des bunkers et tout, donc il y a eu un certain effet de surprise, hein, puisqu'il y a entre 8 et 10 dignitaires, genre chef d'état-major et tout, qui ont été des scientifiques, des hommes très très compétents en matière d'énergie nucléaire et tout ça. Donc première fournée, et je pense que c'était un des objectifs les plus importants de l'opération, décapiter la direction iranienne. Alors là, je pense, la suite des événements l'a montré, erreur gravissime d'analyse. C'est-à-dire que l'Iran, ce n'est pas le Hezbollah. Je n'ai rien contre le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement semi-clandestin dans un tout petit pays qui n'est pas au pouvoir, qui est caché là où il peut se cacher, qui vit une vie à la fois officielle et officieuse, clandestine. Bon, il n'a pas beaucoup de pouvoir, il n'a pas d'aviation, il n'a pas de bombe atomique, il n'a rien. Bon,
c'est donc, une résistance.
Neutraliser le Hezbollah, c'était relativement facile. Bon, neutraliser le Hamas, ça devait être relativement facile, ça l'est beaucoup moins, l'expérience le montre, quelles que soient les souffrances du peuple palestinien.
Bon.
Ouais. S'attaquer à l'Iran, c'est passé tout à fait dans autre chose, c'est passé dans une situation de guerre. Un État de 80 millions d'habitants qui s'attend, même s'il a été un peu surpris le 12 dans la nuit, qui s'attend à une attaque depuis longtemps, mais ça a été dit et redit, éliminer l'Iran, c'est un peu la rengaine des sionistes, de Netanyahou lui-même.
En même temps, il y avait le pourparler sur le...
Voilà, alors en fait, ce qui a pu peut-être tromper, c'était aussi, qu'effectivement, il y avait des négociations à Oman sur le nucléaire iranien, dont on n'était pas sorti, puisqu'en fait, je redis ce qu'on a déjà dit les autres semaines, c'est-à-dire que sur l'objectif que l'Iran n'ait jamais la bombe atomique, les États-Unis et l'Iran sont d'accord depuis le début. Donc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, on va y revenir sur les
depuis
derniers
2015,
propos de
toi. Oui.
Voilà. Donc c'était très clair là-dessus. Le problème, c'est que les États-Unis ont ajouté à cette condition-là, mais qui était d'entrée de jeu, et ça n'a jamais été mis en cause par les Iraniens eux-mêmes, c'est très très clair. Ça revient, alors, l'histoire iranienne, elle est faite de ça. La fatwa de l'imam de l'Ayatollah Khomeini, elle dit très bien, nous n'aurons jamais la bombe atomique. Nous n'aurons des armes que pour nous défendre, que les choses soient claires. Bon. Et rien n'a bougé depuis. Khamenei a remplacé Khomeini, mais on n'a jamais changé de position. Et donc la position est très claire. Ce que les États-Unis voulaient, c'était que, sous la menace, bien entendu, je vais relire les phrases qu'a utilisées Trump, ce que les États-Unis voulaient, c'était que l'Iran accepte de ne faire aucun travail touchant l'énergie, l'activité nucléaire et la radioactivité. Or, en fait, il se trouve que, et c'est très très clair, et tous les scientifiques honnêtes du monde diront que la radioactivité, ça ne sert pas qu'à faire des bombes atomiques. Ça sert d'une part, ça chacun le sait, à faire des centrales électriques, mais ça sert aussi en matière de chirurgie, en matière dans les puces, enfin, il y a des tas d'applications de la radioactivité dans toutes les branches industrielles contemporaines. Donc demander à un pays de renoncer à toute activité en matière de recherche et de travaux sur la radioactivité, c'est lui dire « Vous pouvez retourner au Moyen-Âge, hein, nous on reste où on est ». Bon, ben, ça l'Iran n'accepte pas. Et d'ailleurs, ça ne fait pas partie. Je rappelle que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération des armes atomiques et à aucun moment ce traité de non-prolifération prévoit qu'on doit renoncer à toute activité touchant la radioactivité. Ça n'est écrit nulle part. Il n'y a pas d'interdiction mondiale de ne pas utiliser les produits radioactifs dans quelque activité
alors
humaine que ce
soit. Alors que les sionistes possèdent.
Alors que, tu as raison de le rappeler, oui. Alors qu'effectivement, la bombe israélienne est un secret de polichinelle, hein, puisqu'il y a cette espèce d'ambiguïté diplomatique. On ne dit pas qu'on l'a, mais on l'a quand même. On sait qu'elle est sur des sous-marins, elle est sur des avions, etc. Il y a plusieurs moyens de l'utiliser, donc il n'y a pas de souci. Alors, il se trouve qu'au contraire d'Israël, l'Iran, qui avait signé le traité de non-prolifération, acceptait le principe qui fait partie de ce traité, c'est-à-dire d'inspection de ses installations nucléaires par les inspecteurs de l'AIEA, ce qui voulait dire que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pouvaient aller visiter les installations et vérifier qu'effectivement, l'Iran n'était pas en train de fabriquer une bombe atomique.
Neutre.
Voilà. Et Israël, effectivement, comme il n'avait pas signé le traité et comme on ne sait pas officiellement s'il a la bombe, Israël n'a jamais été inspecté. Alors, si quand même, je raconte pour l'anecdote, il y a une tentative un jour, je ne sais plus sous quel gouvernement, mais c'est dans tous les débuts de l'arme atomique israélienne, c'est les États-Unis qui ont dit « on va venir voir ce que vous faites dans votre centre nucléaire, ça s'appelle Dimona, c'est dans le Negev ». Mais ils ont été très polis, on est entre amis, ils ont averti. Les inspecteurs sont arrivés 2-3 jours plus tard. Et entre-temps, la centrale de Dimona avait été coupée en deux, c'est-à-dire on avait muré tous les ascenseurs, les bombes étaient en dessous et on a fait visiter que le rez-de-chaussée à la délégation américaine. Comme c'était gentil, entre amis, vous voyez. Donc, ça a été la seule visite historique.
Seule, ouais.
Et les Israéliens se sont carrément moqués largement du gouvernement des États-Unis. Voilà, ce que je voulais resituer, donc, on en est là, donc il s'agit de complètement changer de taille, de passer donc à l'attaque d'un pays de 80 millions d'habitants qui maîtrise les techniques du nucléaire et qui dit qu'il ne veut pas en faire une bombe mais qui veut continuer à progresser et à utiliser pour l'avancée de la science et de la technique les produits radioactifs, et un autre qui décide de l'attaquer sans préavis. Car là, il est clair qu'il n'y a pas eu de préavis, d'où l'effet de surprise, la dizaine d'officiels tués et puis les effets collatéraux. Alors, dans les autres effets collatéraux, il y en a un autre qui a été apparemment net, c'est qu'il y a eu, alors il y a plusieurs hypothèses selon les sources qu'on peut avoir, une cyberattaque dans la matinée de l'attaque israélienne qui a fait que le système de défense aérienne iranien a été neutralisé. Mais il n'a été que neutralisé, et apparemment, la suite des événements a montré qu'il avait été très très vite rétabli après la cyberattaque, puisque dès le lendemain, le système anti-aérien iranien a fonctionné. Voilà ce que je voulais vous donner comme introduction, et puis on va faire une petite pause un peu particulière sur un sujet qui n'est pas de la même ampleur internationale, mais qui renvoie à la situation des manipulations de l'opinion dans la société française de M. Emmanuel Macron. Donc on attend un appel de notre amie qui s'appelle Annie Lacroix-Rie, l'historienne que vous connaissez et qu'on entend à l'antenne et qu'on réentendra d'ailleurs au mois de juillet, qui va nous parler de ce qui paraît un petit incident, mais qui est en même temps extraordinairement révélateur de la façon dont l'appareil d'État français modifie la réalité dans des conditions assez peu glorieuses, d'ailleurs, sur lesquelles elle va s'étendre. Je sais pas, on attend l'appel d'Annie Lacroix-Rie, je ne sais pas si elle est encore là. Pas encore. Bon, voilà. Alors, elle va nous parler, je donne le contexte, d'un hôpital de la région parisienne, qui fait partie donc de l'APHP, Assistance publique des hôpitaux parisiens, qui porte un nom, elle le dira elle-même, le nom de quelqu'un qui a été honoré par le fait qu'on lui a donné le nom. On ne donne pas le nom de n'importe qui à un hôpital à Paris, quand même. Hein. Bon. Et qui a été, en fait, maltraité dans une exposition qu'on fait sur l'histoire de cet hôpital, qui était en cours dans les halls de l'hôpital en question. Voilà. Donc, en attendant qu'Annie arrive à l'antenne, elle va venir, on peut continuer donc sur notre affaire iranienne. Donc, le lendemain, manifestement, le système de défense anti-aérienne d'Iran, qui avait été probablement cyber-attaqué la veille, s'est remis en fonctionnement. Et ça a pu être constaté très très vite par les Israéliens. Et puis, d'autre part, ce système a permis aussi de faire passer un message dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a eu la riposte iranienne à l'attaque de la veille. Et riposte de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'on compte que dans la deuxième nuit, il n'y a pas eu moins de 800 missiles qui ont été tirés sur Israël. Alors ça, c'est une première dans l'histoire d'Israël. Jamais personne n'avait tiré 800 missiles sur Israël. Alors, il y a eu quelques missiles outils depuis le conflit à Gaza, ici ou là, mais pas plus que ça. On nous avait annoncé, souvenez-vous, en 2003, que Saddam Hussein allait tirer des missiles sur Israël. Ça n'avait pas marché. Hein. Et donc, par contre, là, ça a marché. Et donc, ce qui est important à noter, ce qui est un élément tout à fait important, c'est que le fameux dôme de fer... Vous savez, on avait créé cette belle image du dôme de fer, c'est-à-dire Israël ne craint absolument rien. Hein. C'est comme s'ils étaient dans une espèce d'énorme bunker souterrain pour tout le pays de la mer au Jourdain. Eh bien non, il y a des trous dans le dôme. Il y a des trous dans le dôme, alors tout n'arrive pas, mais il arrive quand même beaucoup de choses, en particulier les missiles balistiques. Alors un mot sur les missiles balistiques. Qu'est-ce que c'est qu'un missile balistique ? Ben, c'est un missile qui part donc très très haut dans l'atmosphère, à plus de 100 km dans l'atmosphère, propulsé comme une fusée, et qui à un moment donné redescend à une vitesse qui est de l'ordre 10 fois la vitesse du son. C'est-à-dire qu'il est très très difficile à arrêter. Quand on le détecte, c'est probablement un peu trop tard, et donc ces missiles-là arrivent. Alors on peut y ajouter aussi les missiles de croisière, qui à la différence des missiles balistiques, eux consistent à aller le plus près possible du sol pour pas être détecté par les radars. Donc on peut très bien avoir les deux qui fonctionnent, les missiles de croisière servant un peu de distraction au système de défense antiaérienne, et le missile balistique arrivant pour toucher l'objectif.
Et les drones aussi pour brouiller.
Voilà, et les drones aussi, parce qu'effectivement, dans la surcharge des informations, quand il y a énormément de drones, des centaines de drones, le système de défense finit par s'affoler. Il ne sait plus, on dirait pour faire simple, il ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et donc, il y a un certain nombre de projectiles qui arrivent à destination. Alors, on a beaucoup de peine à savoir exactement ce qui est arrivé en Israël. On voit que des photos. Je souligne, c'est très très important, que la censure totale fonctionne en Israël, que les journalistes étrangers ont été priés de s'en aller. Il n'y a plus aucun journaliste étranger sur le sol d'Israël. Donc, effectivement, il ne sort que les infos qui sont passées.
On peut bien les faire passer.
Voilà. Et ou alors qu'il y ait des vidéos qui ont été tournées depuis la Jordanie ou depuis le Liban, etc. Mais les informations officielles sont très, très rares. Alors, ce qu'il y a de sûr, par exemple, c'est que la raffinerie israélienne, il y a une grosse raffinerie à Haïfa, elle a été très, très largement touchée et que donc Israël va manquer de carburant assez vite dans les jours qui viennent. Alors, il n'y a aucune annonce officielle sur la quantité de dégâts, la perte, le délai de la réparation. Mais en tout cas, là, c'est atteint. Et puis, il y a d'autres objectifs militaires qui ont été atteints. Il faut savoir que, de toute façon, l'aéroport Ben Gurion est fermé à la circulation internationale.
Jusqu'au 30.
En attendant mieux, j'allais dire. Et donc, on a cette situation-là. Qui est importante, puisque, premier bilan, donc le dôme de fer ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne un peu, mais il peut être transpercé. Et donc, effectivement, ça induit une réaction de panique, qui peut être la panique de Trump, c'est une des raisons de la panique de Trump éventuelle, de la panique de Netanyahou, c'est certainement une bonne raison de panique, au point qu'on a dit, ça n'a pas été vérifié, que l'avion officiel, vous savez que Netanyahou, comme tous les grands chefs d'État, il a un avion à lui, à son nom, etc., avec le drapeau dessus. Bon, il est sur l'aéroport d'Athènes, l'avion de Netanyahou. Alors, est-ce qu'il était dedans? Est-ce qu'il n'était pas dedans? Est-ce que c'est un leurre? On ne sait pas. Mais ça montre bien qu'il y a un certain flottement, disons, dans la direction israélienne. C'est bien le moins. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des manifestations de rue anti-Netanyahou, entre les alertes, puisque les missiles iraniens ne tombent pas à longueur de journée, mais il y a des phases dans l'attaque. Bon, voilà ce qu'on sait, en gros, sur le déroulement des
événements. Ce matin, il y a eu un gros bombardement.
Encore, ce matin.
Et que les États, comment ils s'appellent, les militaires iraniens, ils ont dit, on est content parce que ces fusées balistiques, tout ça, avec une très grande précision. Voilà. On ne veut pas de morts, on écarte la population si on peut. Mais malheureusement, ils ont dit que en Israël, Tel Aviv et Haïfa, les camps militaires se trouvent dans le...
En pleine ville. Ouais, en pleine ville. Mais effectivement, tu fais bien insister là-dessus, parce que là aussi, on est dans une stratégie qui est copiée sur le modèle russe, c'est-à-dire la riposte est destinée à l'armée adverse et pas destinée à la population civile. Donc, effectivement, après, quand tout est très, très mélangé, ou comme le font les Ukrainiens, c'est-à-dire ils installent des usines dans des logements, effectivement, on ne sait plus où est le combat. Ouais. Mais ça, c'est une donnée de base qui est importante pour la suite des événements.
Ouais,
parce que pour la suite des événements, si on a affaire à plusieurs pays, je les cite dans l'ordre, la Chine, la Russie, l'Iran, qui disent « moi, si on m'attaque, je ne réponds que sur des objectifs militaires, je n'attaque que l'armée qui m'a agressé », c'est toute une autre vision des relations internationales.
Exact.
C'est-à-dire que ça enterre totalement la vision otanienne, la vision de Zelensky, y compris... Alors la vision de Macron, j'ironise, Macron a même dit « je vais aller défendre Israël », puis il a ajouté quand même « si nécessaire », pour ne pas avoir l'air complètement ridicule...
Il est ridicule.
Il est de toute façon ridicule. Voilà, alors on en est là à côté, sur le terrain, c'est-à-dire l'Iran montre qu'il n'est pas défait, loin s'en faut, qu'il avait des réserves. Alors il faut savoir aussi, dans l'histoire de la défense iranienne, la position des imams, donc de Khomeini et de Khamenei, est homogène et constante, c'est-à-dire qu'on n'a pas la bombe atomique, mais on a les moyens d'éviter d'être agressé et envahi. Et les moyens, on se les donne. Et on se les donne depuis 1980. Pas depuis hier matin. Et donc, on a accumulé des capacités pour fabriquer des drones, fabriquer des missiles, fabriquer des carburants pour tous les types de missiles, fabriquer tout ce qu'il faut pour pouvoir riposter aujourd'hui de la façon dont nous le faisons. Et fabriquer ça, ça veut dire former des ingénieurs, former des bureaux d'études, avoir des scientifiques de très haut niveau qui maîtrisent toutes ces techniques-là. Ça ne vient pas de rien. C'est-à-dire, c'est là qu'est la différence avec le Hezbollah ou avec le Hamas. Israël n'a pas compris qu'il s'attaquait à un pays qui s'attendait à être attaqué et qui s'est donné le moyen de se défendre, mais qui n'a jamais ambitionné de raser Israël. Alors si maintenant Israël a des soucis, c'est qu'Israël a obligé l'Iran à riposter. C'est ça qui est très, très...
C'est-à-dire que Netanyahou, il pensait que la population iranienne va à l'encontre de leur pouvoir politique.
Exactement.
Et ça a échoué, là ça aussi, il y a un échec.
Voilà.
La population était très homogène.
Exactement. Alors, à ce propos de qui a décidé la guerre, je vais vous faire entendre, alors c'est très très court, c'est 30 secondes d'un monsieur... dont c'est le dernier témoignage oral enregistré sur YouTube. Je l'ai trouvé après pas mal de recherches, je l'expliquerai. Ce monsieur s'appelle Éric Denessé. Éric Denessé, c'est un ancien des services de contre-espionnage, des services français, comme on dirait, qui ensuite, après son départ de ces services, a créé un site où il donne des conseils pour le contre-espionnage. Ça peut être à destination d'entreprises, ça peut être à destination de qui en a besoin, mais c'est un professionnel du contre-espionnage. Or, ce monsieur, après qu'il ait prononcé les quelques phrases que vous allez entendre, j'insiste là-dessus, est mort. Est mort. Et c'est tellement étrange, cette mort, qu'il faut savoir, et ça fait partie de la façon dont on nous lave le cerveau. Dans la journée de sa mort, le site Wikipédia a donné deux lieux de la mort et deux motifs de la mort. Parce que, alors, Wikipédia, c'est le moment de le dire, Wikipédia, c'est contrôlé par la CIA. Au moins pour les sujets sensibles. Si vous cherchez sur l'histoire de Jules César et de Néron, ça va, c'est tranquille, Wikipédia. Alors vous pouvez faire des dissertations aussi. Mais sur des sujets à chaud de ce type-là, Wikipédia est totalement sous contrôle. D'où le changement de page. La page d'Éric Denessé n'était pas la même le lendemain de sa mort, le matin et le soir. Parce que c'était un cas très très chaud. Et vous allez comprendre pourquoi c'est chaud, parce qu'on va donc écouter Éric Denessé et les 30 secondes qui, probablement, ça c'est l'hypothèse que je peux faire, vous pouvez la faire aussi, c'est peut-être pas la bonne, lui ont coûté la vie.
La stratégie de Netanyahou, depuis quelque temps, consiste à essayer de provoquer ses adversaires pour que ses adversaires l'agressent et qu'ils donnent l'impression d'être la victime et que donc les Israéliens puissent réagir. Donc il y a eu cette première attaque contre le Hezbollah avec les beepers et les talkie-walkie. Sans doute pensait-il qu'il y aurait des frappes importantes du Hezbollah en réponse, ce qui n'a pas été le cas. Et donc Israël devait impérativement tirer parti de cet événement pour agir dans les quelques jours qui suivaient. Sinon, ça ne servait à rien de tuer ou de blesser comme ça de nombreux cadres du Hezbollah. Et donc ils sont passés à l'offensive. Mais je remarque que personne ne note que dans cette affaire, ce sont les Israéliens qui sont les agresseurs. On parle d'agresseurs pour la Russie de la même façon en Ukraine. Et donc la provocation israélienne n'a pas totalement réussi.
Voilà, c'est tout. Et il est mort, je dis pas il en est mort, chacun peut faire l'hypothèse qu'il veut, mais il n'a plus rien dit d'officiel à part avoir dit ça, c'est-à-dire qu'il a donné la lumière sur ce qui était en train de se passer et sur la façon dont ça se passait côté israélien. Et je reviens sur l'histoire qui cite du Hezbollah et des fameux beepers. Vous vous souvenez peut-être que cette opération exceptionnelle était destinée à provoquer le Hezbollah, puisque je rappelle le contexte, il s'agissait donc de petits appareils qui sont analogues à des talkie-walkie, mais encore un peu plus légers, qui servaient aux communications d'homme à homme entre les militants du Hezbollah. Ils étaient dans la rue, ils pouvaient se parler, et ce n'était pas captable. Il n'y avait pas besoin de s'abonner. Et donc le Hezbollah avait dit, c'est peut-être une erreur qu'il avait fait, qu'il se servait de ce système-là. Alors quand Israël a su que le Hezbollah communiquait comme ça et qu'il était donc pas, on ne pouvait pas infiltrer ses communications, qu'en plus beaucoup des communications du Hezbollah se passaient sous terre, là aussi on ne peut pas infiltrer parce que sous terre on n'entend rien, et donc effectivement Israël a fabriqué, alors avec quelle complicité, bon, des complicités techniques à Taïwan, des complicités certainement avec la CIA, un système pour détruire cet outil de travail de la résistance libanaise. Alors cet outil était simplement consisté à introduire dans ces fameux beepers, donc ces petits appareils, un système explosif qui pouvait être déclenché par un rayon laser à distance. Donc on était à des très très hauts niveaux de scientificité, de technicité dans la guerre.
Ça a été fabriqué en Taïwan.
Un niveau jamais atteint, ça n'avait jamais été tenté. Et comme effectivement il y avait un seul fabricant qui était à Taïwan et un seul vendeur à Beyrouth qui savait très bien à qui il avait vendu, puis il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec le Hezbollah qui en avaient acheté, non, c'était très
même
pratique.
Sur la frontière syrienne, là, il y a eu des ventes aussi à l'intérieur.
Tout à fait. On sait aussi que les pompiers s'en servaient, que la police s'en servait, que c'était très très pratique et c'était gratuit. Il n'y avait pas besoin de prendre un abonnement comme pour un téléphone portable. Bon. Donc il arrive à un moment donné sur le marché de ce vendeur de Beyrouth une série donc, de ces beepers qui ont été donc caviardés et dans lesquels il y a de l'explosif. Et donc il y a toute une génération de beepers à partir d'une certaine date où il n'y a plus que ceux-là qui sont en vente. Et à un moment donné... À un instant donné, c'est-à-dire le fameux signal laser que je vous indiquais, tous ces beepers explosent.
Ouais.
Alors ils explosent à la figure de celui qui était en train de téléphoner, dans la poche voilà,
dans son
pantalon. Alors il y en a qui ont été défigurés, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont perdu une main. Enfin, ça a été une catastrophe.
Catastrophe.
Et effectivement, ce que dit Eric Dénessé, c'était... Israël, la tactique d'Israël, c'était de dire, à partir de ça, ils vont déclencher une riposte. Et déclencher une riposte, on est dans le cas inverse de la riposte iranienne, c'est-à-dire la riposte du gros sur le petit, elle est dramatique pour le petit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si le Hezbollah avait commencé à répliquer, il se faisait noyer sous les bombes. Hein. Les F-16 seraient venus, les F-35 à longueur de journée, ils auraient ruiné totalement le sud Liban, voire un peu plus, ils ont déjà pas mal habillé. Et c'est la seule chose qu'ils ont pu faire, ça a été se venger sur l'état-major, et donc détruire finalement Nasrallah et son adjoint, et l'état-major du Hezbollah. Mais ça s'est arrêté là. Et Eric Dénessé a bien raison de rappeler ce phénomène, c'est-à-dire que provoquer quelqu'un qui est beaucoup plus faible que vous, ça ne va pas vers une riposte, puisque de toute façon, celui qui est beaucoup plus faible va rester beaucoup plus faible, et c'est lui qui va prendre tous les coups. Bon, situation totalement inversée dans le cas iranien. Bon, donc ça a été rappelé, c'était ça. Après, il y a eu d'autres provocations. La Syrie a laissé le champ libre avec ce qu'on sait de guerre et de financement des États-Unis et tout. Bon, et donc, Israël paraissait tranquille, mais il fallait qu'il provoque quelqu'un d'autre. Donc, pour provoquer l'Iran, il fallait attaquer l'Iran. Bon. Ah. Ce qui fut fait. Alors, par différentes voies, hein, mais c'est surtout donc, des bombardiers qui ont travaillé.
Je pense qu'ils ont d'abord nettoyé provisoirement le Liban. Et surtout la Syrie, qui était base.
Voilà.
Et d'ailleurs, il y a des fusées qui sont parties de la Syrie vers l'Iran. On ne sait pas par qui les a... Bon, on sait très bien que c'est l'État d'Israël, maintenant qu'il a la main mise sur la Syrie. Hein.
Bah, on sait très bien, de toute façon, que le gouvernement des égorgeurs de Damas est de bonnes relations avec Israël. Et donc, de toute façon, il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids, de toute façon.
Non, pas du tout.
Voilà. Et donc, parlons donc ce vide syrien. Et puis, il y a un autre régime qui s'est bien caractérisé pour ce qu'il est, c'est le régime jordanien.
Ouais.
Puisque le régime jordanien, soi-disant arabe, etc., pro-arabe, bon, on sait ce que c'est, est utilisé par l'armée américaine qui est sur place en Jordanie, il faut préciser, pour essayer d'éviter le passage des missiles iraniens qui passent par-dessus la Jordanie. Regardez la carte, vous allez voir. Donc, côté Jordanie, la complicité avec les États-Unis est totale dans cette guerre. Un autre complice moins clair, c'est l'Égypte. Ouais. Mais c'est un complice moins clair, mais c'est quand même un complice. Alors pourquoi c'est un complice? Alors ça, c'est pas en termes militaires. Je rappelle qu'il y a quand même un traité de paix entre Israël et l'Égypte. La complicité se mesure dans l'accueil, le très mauvais accueil que le gouvernement égyptien a réservé aux marches pour Gaza qui arrivaient sur son terrain. Je dis très très mauvais accueil, puisque pratiquement, alors que les marcheurs voulaient aller jusqu'à Rafah pour dire arrêtez, laissez sortir les blessés, laissez sortir
et
les malades,
alimenter
etc.
les Gazaouis.
Voilà, voilà. Donnez à nous à manger aux Gazaouis. Le gouvernement égyptien a décidé de ne pas les laisser arriver à Gaza. Alors il y en a quelques-uns qui ont été mis en prison tout de suite au Caire. Un petit nombre a réussi à passer le canal et à se retrouver un peu plus loin vers l'est, à Ismaïlia. Mais là aussi, ils ont été ramassés par la gendarmerie, bastonnés, et on les a remis dans... je ne sais pas s'ils sont encore en prison ou dans des avions vers chez eux. Ouais. De toute façon, la solidarité de l'Égypte avec les Gazaouis et les Palestiniens, elle est arrivée à son niveau zéro. Hein. Alors, on laisse sortir à l'occasion.
Alors, ils ont pris le prétexte de dire... ils n'ont pas les passeports à jour, ils n'ont pas ceci, oui, oui. cela, mais en réalité, c'était pas...
C'est purement politique. Alors, on peut toujours trouver un argument administratif, mais c'était purement politique. Il ne fallait pas que cette expression de protestation publique, citoyenne, j'allais dire, contre le massacre des Palestiniens, il ne fallait pas que ça arrive au but. Cette attitude, d'ailleurs, du gouvernement égyptien a été reproduite par le gouvernement, enfin la partie du gouvernement oriental de Libye, puisque le maréchal, le fameux maréchal Haftar, a fait la même chose. Il a arrêté aussi les marcheurs qui venaient de Tunisie autant qu'il a pu. Donc, effectivement, les mouvements de population spontanée, je dis citoyen pour utiliser un mot qui est connu chez nous, ne sont pas bienvenus. Ils sont arrêtés de la même façon qu'a été arrêtée la flottille dont on a beaucoup parlé, flottille sur laquelle mon seul commentaire, même s'il est douloureux à entendre pour certains d'entre vous, c'est que de toute façon, aucune des flottilles de ce type-là, c'est pas la première. Il y a eu la flottille turque il y a quelques années. Aucune n'est jamais arrivée. Parce que pour Israël, à la limite, c'est un détail. On ne va même pas couler le bateau. On va les arraisonner, on va les gazer un peu. Apparemment, on les a un peu gazés. Et puis voilà, ça se termine là. On n'est pas dans un rapport de force militaire du tout. D'ailleurs, ce n'était pas le but de la manœuvre. Et donc, dans ce rapport de manipulation de l'opinion et d'image, Israël est beaucoup, beaucoup plus costaud. Donc, dommage.
Le roi Mohamed VI a interdit aux Marocains de faire cette...
En plus.
Oui, il faut...
Le roi Mohamed VI, alors, tiens, tu me donnes l'occasion d'en dire un petit peu, parce qu'il est paru une espèce de bilan, je ne sais pas dans quel site, sur les rapports entre le Maroc et l'entité sioniste. Il faut savoir que le Maroc a signé avec Israël les accords d'Abraham. Il est pratiquement aujourd'hui le seul État...
Même plus que ça.
Voilà. Non, mais alors, quand vous signez, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous signez avec l'État israélien des accords de ce type qui disent « on est vos amis », ça veut dire que dans l'instant, et dans les mois et dans les années qui viennent, les intérêts et les agents israéliens vont s'infiltrer dans tous les secteurs de votre royaume. Il y en a partout. Que ce soit des trafiquants de diamants, que ce soit des vendeurs de systèmes de sécurité, que ce soit des banquiers, que ce soit des agences de publicité, vous êtes totalement infiltrés, parce que c'est une merveilleuse base, ces Marocains-là, c'est un pays qui a des richesses et tout. Donc, au bout de 5 ans, c'est un bilan qui a été fait maintenant, au bout de 5 ans, on peut considérer qu'Israël gouverne le Maroc. Point. Et donc, Mohamed VI est un fantoche de l'impérialisme. Heureusement, ça a été observé par les voisins, que ce soit le voisin algérien, le voisin tunisien, et ils savent très bien qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là, parce qu'à ce jeu-là, on est toujours perdant. Vous ouvrez la porte, c'est foutu. Vous êtes envahi par tous les moyens disponibles, avec en plus la bénédiction du grand frère états-unien. Donc là, on est tout à fait au clair. Donc le bilan de tout ça, c'est que les Iraniens, sur le papier, dans la région, n'ont pas beaucoup d'amis. Donc la Syrie effondrée, la Jordanie qui est manifestement contre, les Égyptiens qui se mouillent pas mais qui n'aident pas du tout. Alors on a des bonnes paroles des uns et des autres. Quand même, je les note, les bonnes paroles des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, qui disent « Ah, c'est quand même bien dommage hein. ». Ils peuvent difficilement dire moins parce que leur population comprendrait mal qu'ils disent moins. Mais ça ne va pas plus loin que ça.
Ça va être chacun à son tour. S'arrêter là.
Voilà, effectivement. Alors il faut savoir que, effectivement, la menace, si vous êtes manifesté contre Israël, c'est qu'il vous attaque comme il est en train d'attaquer l'Iran.
Même la Turquie, qui fait partie de l'OTAN.
Voilà, la Turquie est dans une position instable, incertaine.
Mais ça sera à son tour aussi.
Ah, ça peut, tout à fait.
Ça peut, oui, parce qu'ils veulent aller très loin.
Voilà, tout ça, c'était pour vous donner un peu de contexte. Alors, je m'étonne parce qu'on devait avoir un appel. Non, il n'y a pas eu. Bon. Alors, je vais vous donner le point où Trump était, c'était donc hier, par rapport à une négociation. On a toujours le principe, Trump arrive toujours en disant d'une main je négocie, de l'autre je bombarde. En gros, c'est ça la politique de Trump. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit?
Ça a toujours été un menteur, c'est bien qu'on ne peut pas le croire.
Alors, qu'est-ce qu'il dit hier à propos de l'Iran? il dit l'Iran aurait dû signer le deal. Alors, qu'est-ce que c'est le deal? Alors, je le rappelle, puisque lui, il dit le deal, j'aurais proposé un accord, il ne le signe pas. Bon, dans l'accord, c'était ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire renoncer à toute activité scientifique et technique touchant les produits radioactifs. Tout. Arrêtez tout ce que vous savez faire. Donc, licenciez tous vos scientifiques.
Il annule complètement 2015, de toute façon. Et c'était pour 3 et quelques le traitement.
Tout à fait.
Il annule tout ça.
Voilà. Alors, je leur ai dit de signer. Quelle honte et quel gâchis de vies humaines. Alors, il ose dire ça.
Toujours pas.
Pour être clair, hein, il dit, je vais être... L'Iran n'a pas le droit d'avoir l'arme, ne peut pas avoir l'arme. Je le cite en anglais. Iran cannot have a nuclear weapon. Bon, mais ça, on le sait, puisque l'Iranien a dit qu'il était, depuis le début, il ne veut pas l'avoir. Je leur ai dit ceci une fois, deux fois, autant de fois que nécessaire. Chacun devrait immédiatement évacuer Téhéran. Alors là, on commence à parler plus précis. Parce que là, ça veut dire qu'il dit à Netanyahou, tu peux y aller.
Tu peux y aller, feu vert.
Envoie tout. Ouais. Envoie tout ce que tu peux envoyer. Hein. Donc ça, c'est le feu vert de Donald Trump qui est très, très précis. Hein. L'Iran ne doit pas, n'a pas l'arme nucléaire. Ben non, il ne l'a pas et il ne veut pas l'avoir. Bon. Alors, par rapport à cette position de Trump, qui n'est pas surprenante, on a eu un coup de fil de Vladimir Poutine, probablement à l'initiative de Poutine lui-même au moment, le lendemain de la première frappe israélienne. Et ça, c'était assez intéressant, puisqu'on en a su. Alors, côté Maison-Blanche, on n'en est pas beaucoup vanté. Et puis, côté Russie, on a pris ça avec humour. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Poutine a décroché le fameux téléphone rouge, puisqu'il existe toujours ce téléphone rouge, et a félicité Trump pour son 79e anniversaire. Comme c'est gentil. Comme c'est gentil. Et l'autre, tout content, « Ah, il m'a appelé, qu'est-ce que c'est bien, c'est un good guy, hein, c'est un bon type. Ah, » bon, Et puis en plus, ce qu'il a dit, Poutine, c'est dit, « Bravo pour la manifestation. » Alors, qu'est-ce que c'est que la manifestation? Eh bien, pour son 79e anniversaire, Trump s'est payé le luxe d'un défilé militaire de 45 millions de dollars dans Washington, pour montrer que l'armée américaine célébrait les 79 ans du président des États-Unis. Alors, ça a fait jaser aux États-Unis, mais il a quand même dépensé 45 millions de dollars.
Vas-y, c'est rien pour lui.
Jules, tu voulais dire quelque chose?
C'est une dictature.
Oui,
bien sûr.
C'est tout, oui, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas grand monde qui s'y oppose. Voilà. Donc, c'était ça, et donc, je pense que, du point de vue côté Poutine, ils ont très très bien compris, ils avaient affaire. Donc, on lui passe la main dans le dos, on lui fait gonfler sa vanité, il est vaniteux au-delà de tout ce qui est imaginable, et après, il dit, ah, good guy, il m'a dit que j'étais un très bon président, il m'a souhaité bon anniversaire. Quel copain! Quel copain! Oui, tu vas voir la suite des événements, on te connaît. Copain en question. Alors, la suite des événements, alors il y a la suite sur le terrain, donc l'Iran va continuer à attaquer, et manifestement, là, côté israélien, on est mal. On est mal, et l'idée, manifestement, l'idée de Netanyahou et de son équipe, c'est d'obliger les États-Unis à mettre leur poids militaire dans l'opération, parce qu'autrement, ils savent qu'ils sont en voie de perdre. Et perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre le pouvoir. Ça veut dire mettre en cause même la vie même de l'État d'Israël. Donc ça, c'est pas possible dans leur esprit. Et donc, à ce moment-là, il faut appeler le grand frère en disant « Si tu nous sauves pas, on s'en sortira pas. » Alors le grand frère, il est entre les deux. Il est à la fois en train de donner des ordres à l'Iran, et puis il est en train d'envoyer... Alors il y avait déjà le porte-avions Vinson qui était sur place. Il y a le porte-avions... Le deuxième, là, je sais pas lequel c'est, celui qui est au large du Japon, qui est en train de venir. Il y en a un troisième qui arrive depuis la côte atlantique. Et puis, quand on met comme ça 3 porte-avions et toutes les flottes qui vont autour, ça veut dire qu'on met en place un système de protection aérienne du territoire israélien qui remplace le système de protection aérienne qui s'est effondré. C'est manifeste. Bon, c'est ça qui se prépare. Il faut qu'on soit bien, bien conscient de ça. Alors, ça prend un certain temps parce que les porte-avions, ça ne voyage pas à 40 nœuds. Bon, mais ils vont être là bientôt. Ils vont être là bientôt. Il y en aura un en mer Rouge, il y en aura un en Méditerranée. Il y aura probablement un qui rentrera dans le golfe arabo-persique. On verra.
Et je ne sais pas, c'est là que ça va se
alors,
jouer.
C'est là, alors, à propos du ouais. golfe arabo-persique, parce que Habib voit bien où je vais en venir, c'est qu'il y a eu une menace non cachée des sionistes de dire, vous allez voir, on va s'en prendre à la richesse de l'Iran. Alors l'Iran sait faire des drones, sait faire des missiles lancés, mais l'Iran, surtout, c'est un pays pétrolier.
Et gaz.
Bon, et gaz. Et donc, effectivement, la menace israélienne de dire on va s'en prendre à l'activité pétrolière, c'est-à-dire tirer sur les terminaux pétroliers, puisqu'il y a des endroits où on embarque le pétrole et le gaz, ça a une conséquence qui a été tout de suite relevée par un observateur iranien, je crois que c'est le ministre de la Défense, qui a dit « Ah, mais si on touche nos intérêts pétroliers, il n'y aura plus de pétrole du tout qui sortiront du Golfe. »
Voilà.
Ce qui veut dire, alors c'est à peine codé, ce qui veut dire, le lendemain, il y aura un bateau coulé au milieu du détroit d'Ormuz, hein, et vous verrez bien après comment l'économie internationale fonctionne. Ben, elle ne fonctionne pas, c'est tout, point. Bon. Et donc, je pense que là aussi, c'est le côté matamor du discours israélien. Vous allez voir ce que vous allez voir, et puis en fait, quand on les oblige à mesurer les conséquences, effectivement, tout le monde va leur dire, mais arrêtez, surtout ne faites pas ça, parce que là, on n'est pas, alors, arrêtez le détroit d'Ormuz, je vous donne quelques chiffres, on est aujourd'hui autour de $80 le baril, on peut monter dans la journée à $250 le baril, c'est-à-dire, vous pouvez aller prendre du carburant à 10 euros le litre la semaine prochaine, hein. C'est ça. Donc, vous faites effondrer toutes les économies, surtout celles qui dépendent du pétrole.
Par le détroit d'Ormuz, je crois que le transport pétrolier tout ça est des 40%, je crois, mondial, non ?
Oui.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est énorme, puisqu'en fait, il sort bien sûr le pétrole iranien, il sort le pétrole du Koweït, il sort la moitié, en gros, du pétrole d'Irak, le pétrole de la partie sud de l'Irak, et une partie du pétrole saoudien, une partie qui sort sur la mer Rouge et l'autre de ce côté-là. Donc, effectivement, c'est 40% du pétrole mondial. Or, quoi qu'on dise, bon, on a beau nous raconter transition énergétique, machin chose et tout, bon, aujourd'hui, il n'y a aucun avion qui fonctionne sans kérosène. Il n'y a pas beaucoup de camions qui fonctionnent sans carburant, sans gasoil. Il n'y a pas encore beaucoup de voitures qui fonctionnent sans tout ça. Et donc, le transport international est extraordinairement dépendant, et encore pour pas mal d'années, du pétrole. Donc le résultat serait immédiat, mais ce serait une catastrophe économique mondiale. Donc ils ne peuvent pas le faire, parce qu'on va leur dire arrêtez-vous, et Trump le premier. Parce que Trump, alors, il est dans une situation un peu particulière, puisqu'il a été nourri dans son premier mandat de l'idée que les États-Unis, et c'était vrai en 2017-2018, les États-Unis étaient redevenus, grâce à l'exploitation massive du gaz et du pétrole de schiste, le premier exportateur et le premier producteur mondial. En fait, il se trouve que 8 ans après, on n'en est plus du tout dans cette situation-là. Les meilleurs gisements sont épuisés. La catastrophe écologique qui va avec l'exploitation du gaz de schiste est en cours. Et donc, en fait, les États-Unis sont encore, peut-être encore pour cette année, les premiers vendeurs et les premiers producteurs. Mais c'est terminé. C'est terminé. Donc, il ne peut plus faire le vantard comme il fait, dire « je suis la première puissance pétrolière mondiale ». Ce moment-là est terminé. Ce moment-là est passé, disons. Ce qui est une autre donnée de la situation. Alors, je ne veux pas vous faire pleurer sur la situation française et européenne, mais il faut savoir que dans les pays qui auraient de graves, graves difficultés si le pétrole arrivait à ces prix-là et le gaz à ces prix-là, on serait parmi les premiers touchés, les plus touchés. Nous avons zéro ressource pétrolière. C'est tout. On en a eu très très petite, un petit peu en Alsace, entre les deux guerres, un petit peu avec le gaz de lac dans les années 50. C'est terminé, il n'y a plus rien. Hein. Donc effectivement, jouer à ce jeu-là, c'est un jeu destructeur, c'est un jeu de folie. Bon, je ne sais pas si Macron est suffisamment raisonnable, je pense qu'il ne l'est pas. Donc, voilà, c'est ça, je pense qu'il ne l'est pas. Hein, parce que lui aussi, c'est MAGA, hein, make Macron great again. Hein, mais c'est terminé pour Macron great again. Alors, en attendant toujours des nouvelles de notre correspondante, il n'y en a pas. Hein, ça
non.
Alors, d'accord, ok. Alors, Quelques données supplémentaires. Donc, il y a donc tout ce matériel militaire des États-Unis qui est en cours, qui est en route. On a des indications, mais qui n'ont pas été suivies, de confirmations, mais qui sont très intéressantes, sur le fait que plusieurs F-35, qui est donc le dernier chasseur-bombardier fabriqué par Lockheed et qui est utilisé, qui est en service dans l'armée israélienne, auraient été abattus sur l'Iran.
Oui, j'ai vu toutes pleines d'avions qui ont été à Al-Mayadin.
Voilà.
Qu'ils ont été...
Voilà. Alors, si c'est vrai, effectivement, on a affaire là à un échec considérable de l'appareil.
Je sais pas si c'était... Moi, je croyais à l'intelligence artificielle ou un truc. Mais comme tu le dis, je ne sais pas. C'est pas très
pour
bien.
L'instant, on a...
Mais on a vu ça.
Voilà, on n'a pas vu. Alors, ça a été annoncé. Alors, c'est très intéressant. Mais si, effectivement, la défense antiaérienne iranienne a pu abattre des F-35, effectivement, l'avion qui était la perle de l'armée de l'air des États-Unis, qui était capable de passer partout et de ne pas être abattu, cet avion-là est fragile. Et donc, effectivement, c'est un atout de moins encore pour l'attaque des États-Unis, un atout de moins pour Israël, parce que Israël avait les meilleurs des F-35, hein, et avait une quantité importante, quitte à ne pas les payer, puisque de toute façon, les aides financières permettent de tout.
Là, c'est ce que j'ai dit, c'est que ce matin, j'ai vu, c'est un bombardement de l'aéroport militaire qui a été effectué. Là, j'ai vu plusieurs avions hors d'usage. Mais je ne sais pas si c'est...
Parce que tu veux dire sur Israël?
Oui.
Ce matin, oui, alors...
On ne sait pas très bien. Alors les réseaux sociaux sont tellement...
Ben, c'est difficile. Puis effectivement, comme il y a censure au niveau israélien, on ne sait pas tout. Ouais. Et donc souvent, on a une vidéo qui a été prise depuis la Jordanie, depuis le sud Liban, des choses comme ça. Bon, donc je suis assez prudent sur l'histoire des F-35. Ça serait très, très intéressant.
Par contre, les avions qui ont été abattus... dans le ciel iranien, ça c'est vrai.
Ah oui, ça oui.
Bon, ils ont, je ne sais pas s'ils n'ont pas récupéré le pilote, ça va très bien.
Voilà. Donc voilà, c'était un premier point sur cette situation. Donc c'est situation évolutive. Alors quand même, deux choses sur des réactions possibles de la Chine. Alors, il faut savoir que la Chine et la Russie ont pris une position commune en disant que cette attaque était inacceptable du point de vue du droit international. C'est pour la première fois, la Chine est très très claire et en phase avec la Russie sur cette question-là. Ce que ça peut avoir pour conséquence, là aussi dans des hypothèses, dans des secrets de fabrication, mais c'est qu'il est en train d'arriver, ou il serait en train d'arriver sur le territoire iranien, via le Kazakhstan, le Turkménistan, enfin par un parcours dans les républiques d'Asie centrale, du matériel chinois, qui est un matériel qu'on appelle des radars quantiques. Alors j'introduis la notion de radar quantique, c'est-à-dire le radar classique, c'est une onde que vous envoyez sur un obstacle métallique et que l'obstacle métallique, qui peut être un avion, vous renvoie.
Ouais.
Le radar quantique voit un objet qui bouge et il l'en sert et il en prend les caractéristiques, la vitesse, la position, etc. Bon. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas besoin et ça peut s'appliquer à n'importe quel type de marchandise. Et il n'y a pas besoin, si c'est du métal, c'est pareil, que si c'est de la fibre, que si c'est des vernis, tout. Bon, donc ça, alors... je parle des radars quantiques parce que, d'après tout ce qu'on a pu lire depuis, le petit incident frontalier, comparativement à ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan il y a de soi un gros mois, on a compris qu'effectivement, des avions de moindre capacité, je veux parler des rafales, avaient été donc abattus parce qu'en fait le système chinois avec ses radars quantiques avait permis de détecter le départ de ces avions depuis l'Inde, donc sur le Pakistan, bien avant que les Indiens ne se méfient. Donc c'était ça, et très probablement le matériel qui est en cours d'acheminement en Iran, c'est du matériel de ce type-là. C'est-à-dire que ça va donner à l'Iran les moyens d'intercepter tout vol, y compris au départ de Tel Aviv ou de Haïfa.
Bernard, et la position du Pakistan qui est très... Je ne sais pas, on a l'impression qu'il est lié avec l'Iran.
Alors,
est-ce qu'il ne va pas non plus...
Le Pakistan peut jouer un jeu compliqué.
Oui,
le Pakistan, c'est une puissance nucléaire, on le sait, qui s'est construit pour répondre à la puissance nucléaire indienne, ça c'est connu, qui n'est pas signataire du traité de non-prolifération, puisqu'il l'a violé, évidemment, comme son voisin, mais qui a une certaine capacité nucléaire, les moyens de transporter les bombes de différents types. Donc, effectivement, le Pakistan peut menacer. Alors, on a des expressions de ce type-là, en disant, si vous attaquez l'Iran encore, c'est nous qui allons le défendre.
Voilà. Oui, oui.
on va jouer la carte de l'usage de l'arme nucléaire. Alors c'est un jeu extrêmement dangereux parce que le premier qui joue déclenche nécessairement le jeu de ceux qui l'ont et qui ne sont pas du même avis que lui.
Parce que Netanyahou a déclaré tout pays musulman ne doit pas avoir l'arme.
Voilà. Oui. Ah, mais il peut le dire, mais en fait Pakistan...
Oui, le Pakistan
peut toujours parler.
Oui.
Non. Alors, ce qui est venu, c'est que d'une part, les rapports entre le Pakistan et l'Inde ont toujours été compliqués et que l'Inde a été et reste, malgré les BRICS, malgré tout ce qu'on veut, l'Inde reste quand même très très poche de la politique sioniste sur des tas de sujets.
Oui, c'est pour ça.
Et achète beaucoup de matériel, de surveillance, de tout type, à Israël. Donc effectivement, on a cette menace. Alors moi, je la prends avec précaution, mais je pense que c'est de nature à faire réfléchir les jusqu'aux boutistes, les fous de la guerre nucléaire, parce qu'effectivement, à partir du moment où un franchirait le pas, tout le monde pourrait le franchir. Et ça, je pense que...
Voilà. Quand même, ouais, un peu plus de sagesse.
Oui, oui, oui. Et puis, je pense que ceux qui parlent, il y a des gens quand même qui parlent avec le Pakistan, je pense au gouvernement russe, je parle aussi au gouvernement chinois, parce qu'il faut savoir que les relations économiques entre le Pakistan et la Chine sont extrêmement étroites. Et donc, je pense qu'il y a des possibilités de discuter pour éviter ça. Mais ça fait partie, alors, c'est une réponse aussi d'un certain nombre d'officiels pakistanais qui voient que les rues entières d'Islamabad, de Lahore et tout, sont pleines de manifestants qui veulent dire « maintenant, il faut arrêter Israël ». Donc la pression populaire est extraordinairement forte, surtout dans un pays qui fait 280 millions de personnes. On est dans une autre échelle. Donc je pense qu'un certain nombre de gouvernements sont dans la situation du gouvernement pakistanais.
Et il ne faut pas oublier la Corée du Nord. Voilà. Lui, il a dit « je suis prêt à aider l'Iran ».
Tout à fait. Et donc, on a là un camp qui n'est pas en guerre, mais toute une série d'États qui disent, attention, si Israël commet le pire, je pense pas... Enfin, Israël, on connaît la doctrine israélienne, c'est-à-dire, c'est la doctrine...
Très rapide, voilà.
Non, mais dite de Salomon, c'est-à-dire, si j'utilise l'arme atomique, je meurs aussi. Alors, quel est le bénéfice? Donc, c'est un raisonnement un peu bizarre.
C'est tellement petit.
Voilà, il ne reste rien. Il reste rien.
Déjà, avec les fusées balistiques, déjà, ça commence.
Donc, je mets ça dans le tableau général, mais en essayant de ne pas dramatiser, parce que ça supposerait que tous les membres du club atomique vont dans le même sens, qui serait de dire on arrête, parce que les membres du club atomique, les 5 du Conseil de sécurité, dont la France, qui pour l'instant n'a pas changé de position officiellement, disent qu'il ne faut pas utiliser l'arme atomique, parce que tout le monde meurt. Il y a une déclaration qui a été signée en janvier 2024, très précisément, qui peut être consultée sur le site de l'Élysée, qui est toujours en disant « les 5 membres du Conseil de sécurité ayant l'arme atomique considèrent que l'usage de l'arme atomique est impossible ». Ça reste vrai parce que c'est la raison qui impose que ça soit vrai. Alors que dans des effets de parole, à la tribune, à la télévision, on fasse comme si on n'avait jamais signé ça, je veux bien, mais pas plus. Pas plus. Et puis, je rappelle que aussi, on a une espèce de mythologie du bouton. C'est la mythologie du bouton. Il y a un monsieur tout seul à son bureau qui est très très en colère, qui est rouge comme ça, et qui appuie, et il y a 200 millions de morts. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ce qu'on appelle une chaîne de commandement. Il y a une série de personnes à consulter. Il y a plusieurs avis avant de déclencher. Ça se passe pas comme ça. Pas du tout. Ça se passe comme ça dans les films de Hollywood. Mais ça se passe pas comme ça dans le réel. Il y a pas un monsieur, heureusement, parce que si on a un cinglé à l'Élysée, ça peut... Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et il faut savoir que dans ce qu'on peut lire des réactions de l'état-major français ou des généraux qui osent parler, c'est qu'ils veulent pas, ils veulent surtout pas de ça. Ils rappellent, et c'est la vérité depuis De Gaulle, qu'il s'agit d'une arme dissuasive. Il s'agit de rien d'autre. Parce qu'on n'est pas à l'échelle autrement. Le territoire... Alors autant la Russie peut dire, moi, si on me bombarde beaucoup, vu la taille de mon territoire, il y aura encore des endroits où je pourrais me réfugier. Vu la taille des bombes H d'aujourd'hui, vous mettez 2 bombes H sur la France, on est tous au tapis. Bon, donc... Mais ça, on oublie de nous le dire. Alors, on dit puissance nucléaire. Non, calmons-nous, c'est pas ça. On est dans une vraie guerre avec des techniques contemporaines, le drone, le missile balistique, etc. une vraie guerre qui a été voulue par Israël et qu'il pourrait bien perdre. C'est ça l'événement nouveau. Et s'il la perd, c'est l'avenir de l'État d'Israël qui est en jeu. Mais il faut savoir que les Iraniens n'ont jamais dit autre chose que cet État qui est venu là, qui a été imposé comme État colonial par les puissances occidentales, je rappelle la déclaration Balfour, etc. Cet État-là est un trouble à l'ordre public moyen-oriental. Bon, c'est tout à fait clair.
C'est un cancer.
Voilà, c'est tout. Alors après qu'il y ait des Juifs qui s'installent à Tel Aviv ou à Haïfa, qui vivent leur vie, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'un cancer colonial installé par l'Occident. Et c'est comme ça que l'expriment les Gazaouis. Alors, et c'est qu'est-ce qui explique l'extraordinaire force de caractère des Palestiniens ? Parce qu'il faut tenir à Gaza, je veux dire. L'extraordinaire force de caractère des Palestiniens, c'est dire que nous sommes chez nous et on tiendra parce qu'on est chez nous. Et qu'on nous
c'est que je ne comprends pas que l'armée israélienne, qui est très puissante et tout, n'est pas arrivée à exterminer le Hamas. Je ne comprends pas.
Ah ben il n'y arrive pas.
Il n'y arrive pas.
Mais non,
c'est un échec, aussi bien au Liban que dans la bande de Gaza. Bon, et pour le moment, on ne sait pas. Entre l'Iran et eux, on verra bien.
On verra bien. Voilà, le point déjà prudent sur cette situation militaire mondiale. Donc tout le monde joue. Beaucoup de choses sont encore officieuses. Mais je dis, les porte-avions américains, c'est pas officieux, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le matériel, les radars...
Macron, il n'a pas envoyé De Gaulle encore.
Non, je ne sais pas où il est, le porte-avions. Je ne sais pas où il est. Oui, non, oui. Il ne s'est pas vanté. Il a dit, je vais envoyer le porte-avions. Non, il n'a même pas dit, puisqu'il a dit, on sera obligé de défendre Israël si nécessaire. Donc, oui. il a déjà préparé sa porte de sortie.
Il est tout le temps en contradiction dans son esprit.
Courageux, mais pas téméraire, on dit classiquement. Bon. Alors, on va un peu changer de sujet, vu que l'heure passe, et donc la séquence qu'on veut faire sur un sujet plus français ne s'annonce pas. Je vais vous parler un petit peu de l'Argentine.
Oui.
Alors un petit peu, encore que l'Argentine soit un pays extrêmement compliqué. C'est un pays extrêmement compliqué qui est d'abord à cette particularité. Alors vous savez, pour résumer l'Argentine, il y a un petit mot d'humour qui est utilisé pour les gens qui habitent dans ce continent sud-américain qui disent « Les Mexicains descendent des Aztèques,
oui.
Les Péruviens descendent des Incas, les Argentins descendent du bateau ». Et en fait,
c'est
ça veut dire.
Tout de... oui,
et ça veut dire qu'effectivement, on a, c'est le seul pays quasiment d'Amérique du Sud où la population d'origine européenne, donc italien, espagnol, etc., juif, il y a beaucoup de juifs aussi, ouais, est beaucoup plus importante que la population autochtone.
Beaucoup des Syriens,
oui,
des
aussi,
Libanais.
Voilà. Bon, donc ce pays a un destin très très particulier dans la géographie même de l'Amérique latine, et il est soumis à des mouvements politiques extrêmement forts et souvent extrêmement violents. Enfin, je rappelle la dictature militaire, et il a été soumis à un mouvement très particulier, qui est une espèce de nationalisme populiste qui était le péronisme, qui a gouverné un certain temps, mais qui n'était pas ni socialiste, ni socialisant, qui était un gouvernement national populiste, disons, pour faire simple, qui voulait avoir un appui dans la classe travailleuse, mais pas plus, mais qui voulait surtout être souverain chez lui. Alors, souverain chez lui, ça voulait dire, en fait, que les États-Unis me laissent tranquille. Il faut savoir que le rôle important de l'Argentine pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'avoir du beefsteak, du blé, partout dans le camp occidental, alors que les transports étaient difficiles au travers de l'Atlantique. Et donc l'Argentine s'était sentie valorisée par
mais
ce rôle.
Aussi, il y avait un foyer des nazis.
Après, comme justement ce gouvernement n'est pas un gouvernement ni socialiste ni progressiste, effectivement, la consigne, ça a été de dire tous les nazis qui ont échappé au procès de Nuremberg, ils se finissent leur vie en Argentine avec la complicité du Vatican qui était chargé d'organiser les transports. Comme tout cela était bien organisé. Donc, l'histoire de l'Argentine est une histoire vraiment très très particulière. Et elle vit en ce moment un nouveau moment, puisque vous savez qu'est arrivé par la voie électorale un président qui est une espèce de danger public, qui travaille enfin qui montre ses meetings en disant qu'il a une tronçonneuse et qu'il va tout casser, hein, Milley. Bon, alors il rencontre certaines oppositions, mais pas tant que ça. Il est en train de réduire le niveau de vie de la totalité de la population argentine à très très peu de choses. Enfin, on ne sait pas si on mange à la fin de la semaine, les salaires baissent, les prix augmentent, et il est en train d'être soumis totalement au Fonds monétaire international. Et c'est là que je voulais un peu arriver. Parce que il se passe ces dernières semaines une tentative de mettre en prison, sur des accusations, mais sans la mettre dans un tribunal, de mettre en prison l'ancienne présidente Cristina Kirchner. Alors, Cristina Kirchner, qui était l'épouse de son mari, donc lui a été président, il est mort, elle a pris la place de présidente. Et elle s'est signalée, et moi j'en garde un souvenir assez ému, en allant dire devant l'Assemblée générale de l'ONU, il y en a assez de la dictature du dollar et de la dictature du Fonds monétaire international.
Ouais,
nous voulons respirer tranquille, nous voulons pouvoir gérer nous-mêmes notre pays. Alors ça, ça ne lui a pas été pardonné au Fonds monétaire international, ni même aux États-Unis. D'où les ennuis qu'elle a maintenant et qui risquent de l'amener à la prison sur la base d'accusations sans procès. Alors l'Argentine est en train de se réveiller là-dessus parce qu'elle, elle est péroniste, donc par filiation historique, mais l'Argentine est en train de se réunifier là-dessus en disant il y en a assez que nous soyons simplement un esclave du Fonds monétaire international, qui est le rôle que Milei a pratiquement tout cédé au Fonds monétaire international depuis qu'il est au pouvoir. Donc c'est même plus lui qui gouverne, on peut dire, le gouvernement d'Argentine est directement à Washington, au Fonds monétaire international. Ça peut engendrer une réaction. Donc on va avoir, je ne vais pas beaucoup plus loin là-dedans dans la présentation du dossier, mais on a un pays extraordinairement malade, très clairement, extrêmement instable, qui peut tomber un peu dans tous les sens, et qui est très très à part du reste de l'Amérique latine, avec une histoire qui n'a que lui. On y reviendra si nécessairement il se passera forcément des choses. Ensuite, je voulais dire quelques mots. Attendez, je regarde mes notes. Oui, sur la situation quand même. Situation en Ukraine. On n'en a pas parlé.
Oui.
Puisqu'en fait, là, il est évident, d'une part, que l'armée russe avance à peu près partout où elle a décidé d'avancer. Et qu'en face, il n'y a plus grand monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de combattants, il n'y a plus beaucoup de moyens, et que la seule issue, mais qui effectivement ne va pas de soi pour Trump et son entourage, c'est de dire qu'il faudrait que les États-Unis, là aussi, investissent beaucoup plus. Et surtout, il faudrait 3 semaines, 1 mois ou plusieurs mois de cessez-le-feu. Alors la Russie a répondu très très clairement en disant si cessez-le-feu, ça consiste à laisser rentrer toutes les nouvelles armes, tous les nouveaux moyens, les nouveaux radars, etc. Il n'en est pas question. Alors on veut bien discuter, et on continue les négociations, mais de toute façon on ne va pas vous laisser le plaisir de refaire vos stocks d'armement et de faire venir d'autres mercenaires, etc. Bon, ça, de ce point de vue-là, la situation est relativement claire et la Russie semble prête à ne pas changer de position par rapport à ça. Et puis, en fait, ce qui va se passer, et c'est là que ça devient intéressant à suivre, c'est que il y a un certain nombre d'officiels russes, je n'aille pas les noms, mais je pense en particulier au vice-ministre des Affaires étrangères qui s'appelle M. Ryabkov, qu'on connaît moins que Lavrov, mais qui dit des choses intéressantes, qui dit, mais... Alors, il ne le dit pas dans les termes où j'utilise, mais je vais vous expliquer ce qu'il dit. Il dit, en fait, quand la guerre avec Zelensky sera terminée, les habitants, ce qui va rester d'habitants en Ukraine, ce sont des gens qui sont nos cousins, nos frères, oui, qui parlent russe presque tous, qui ont été éduqués en russe, qui connaissent la littérature russe, qui chantent en russe, etc.
Même Zelensky parle mieux en russe qu'en ukrainien.
Et donc, en fait, ce qui est en train de se préparer, c'est une préparation de l'opinion publique ukrainienne, qui est muselée par les néo-nazis de Zelensky, pour dire, mais attendez, quand on aura réglé nos questions territoriales, de frontières, etc., de toute façon, vous ne devenez pas nos ennemis définitifs, même si vous habitez sur un territoire qui s'appellera post-Ukraine, ou Ukraine numéro 2, ou Ukraine numéro 3, peu importe, vous serez toujours de la famille, hein. À part ceux qui voudront vraiment aller jusqu'au bout de leur nazisme et dire, nous, dès qu'on voit un russe, on tire. Bon. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bandéristes, il y en a moins certainement qu'au début. Ils sont certainement en train d'encercler Zelensky pour qu'il ne change pas de position, mais ça ne préjuge pas du tout cette position donc, d'état-major assiégé, ça ne préjuge pas du tout de la position des Ukrainiens qui sont encore vivants sur le sol de l'Ukraine. Alors il n'y en a plus beaucoup, ce n'est pas les plus riches, parce que les plus riches sont déjà partis, hein, c'est clair. C'est les gens qui sont là, c'est plutôt des couches sociales moins favorisés qui sont là et qui sont impliqués dans cette guerre dont ils ne veulent pas et dont ils n'auront aucun bénéfice. Parce qu'il faut bien savoir que les énormes dégâts faits par les armées de l'OTAN sur le territoire ukrainien, comme ceux faits par l'armée russe sur l'appareil militaire, seront à réparer et prendront des dizaines d'années. C'est-à-dire que la population des 52 millions d'Ukrainiens qui, en 1991, était la population la plus moderne et la plus développée de toute l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, est aujourd'hui la dernière roue de la charrette. Puis, appauvri, où il doit rester, qui sait, 20 millions d'habitants, un système de transport détruit, un système électrique en cours de destruction, etc. On en est là, on en reparle. Et je voulais regarder, parce que tout à l'heure, en évoquant l'affaire iranienne, je n'ai pas parlé de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et ça mérite qu'on en parle, parce que la veille de l'attaque donc israélienne contre l'Iran, se tenait un conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça se fait à Vienne, c'est un système régulier. Et donc, à cette occasion, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Raphaël Grossi, diplomate argentin d'origine, s'est livré à une petite activité propagandiste dont il a le secret. C'est-à-dire, il a commencé à dire et à faire approuver par le vote de cette assemblée des gouverneurs « Oh, vous savez, ils ont déjà pas mal enrichi l'uranium, les Iraniens. Ils ne sont plus très loin de la bombe atomique. » Quand vous êtes à la direction d'un organisme international qui est chargé de maintenir la paix pour éventuellement éviter qu'il y ait des armes atomiques un peu partout sur la planète, et que vous mettez à dire des phrases vagues comme un journaliste de France Info ou de CNews, « Oh, mais ils sont pas loin », ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire simplement que vous êtes un malhonnête. Vous faites pas le travail pour lequel vous êtes payé. Vous êtes en train de mettre le feu à une institution et vous avez donné, et moi je pense que le dernier feu vert dont Netanyahu avait besoin, c'était celui-là, le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et je reviens un peu sur cet organisme. Cet organisme, il est le fruit du traité de non-prolifération des armes nucléaires, dont les objectifs sont clairs, laisser l'activité touchant tous les produits radioactifs, c'est ce que je disais à propos de l'Iran tout à l'heure, libre, énergie électrique, travaux scientifiques, etc., médicaux, tout ce qu'on veut, et interdire l'arme nucléaire en tant que telle. Et tous les signataires du traité de non-prolifération acceptent que les inspecteurs de l'AEA viennent chez eux, regardent ce qui s'y passe, etc. J'ai parlé de l'inspection, la fausse inspection à Dimona tout à l'heure. Ce monsieur, Raphaël Grossi, a pris la place du directeur général en 2018. Il a remplacé à ce poste un personnage dont j'ai le nom quelque part, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, ouais. un japonais, un diplomate japonais, très sage, très modeste, qui passait son temps à faire son travail, c'est-à-dire à éviter qu'il y ait prolifération des armes nucléaires. Ce monsieur japonais, il avait cette particularité qu'effectivement, il voulait faire son travail proprement. Il l'a fait pendant 4 mandats, c'est-à-dire qu'il a succédé, alors pour ceux qui ont de l'âge, ça rappellera le nom de son prédécesseur, le premier directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'appelait M. Mohamed El-Baradei. Ouais. C'était un Égyptien qui, au moment où Bush préparait l'attaque de l'Irak, a dit « Mais moi, je suis en charge des inspections, il n'y a pas de nucléaire en Irak, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?»
Il a été bombardé par Israël.
Voilà,
déjà.
On l'a fait taire. Et il a été remplacé par ce monsieur japonais qui a dit « Bon, il y a un gros travail à faire ». Et il a fait le travail pendant 4 mandats. Donc il était respecté par tout le monde. Et un beau jour, ce monsieur s'est senti fatigué. Il n'avait pas fini son 4e mandat. Il s'est senti fatigué. Il a dit « Il faut que j'arrête avant la fin du mandat ». Quelques semaines après, il était mort. Tiens. Et il a été remplacé par M. Raphaël Grossi, qui n'attendait que ça. Et depuis que M. Raphaël Grossi est à ce poste, M. Raphaël Grossi s'est maintenant établi, et les Iraniens le savent, a établi des liens avec des agents israéliens, a donné des informations à l'État d'Israël, alors que l'État d'Israël n'est pas signataire, donc il n'a droit à rien. Alors c'est passé par lui directement, ou c'est passé par l'État-major américain, c'est la même chose. De toute façon, ce monsieur est un traître à la cause qu'il est censé, il est payé pour la sauver. Bon, M. Raphaël Grossi est un traître. Je souhaite que son mandat s'achève le plus vite possible, et donc vu ce qu'on sait maintenant sur lui, je pense qu'il va être poussé à une forme de démission.
Mais franchement...
Oui.
Si vraiment l'Iran possède la bombe atomique, mais Netanyahou, il n'aurait pas attaqué.
Mais évidemment, mais non, c'est ça le principe de la dissuasion.
La dissuasion, alors ils le savent très bien qu'elle n'a pas,
arrivé à faire la bombe atomique.
Hein. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas loin. L'enrichissement, bon, on ne sait pas.
Alors après, non, mais c'est des gens, genre Grossi, qui mettent la confusion en disant « il sort à 66% ». Oui, mais 70%, ce n'est pas 95%, donc c'est tout, arrêtez-vous. Et puis combien de temps il faut? Et est-ce puisqu'ils disent qu'ils ne veulent pas le faire, ben laissez-les tranquilles. Hein. Mm. Bon, donc tout ça est cousu de fil blanc, mais je voulais insister sur le rôle de cet AIEA, donc ce monsieur Grossi qui a joué un rôle très très négatif. Et je veux rappeler la façon dont il traitait les problèmes sur le sol ukrainien. Parce que depuis 2024, c'est déjà lui qui est à la tête de l'AIEA depuis 2018. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez, le problème des centrales nucléaires ukrainiennes est un problème bien connu, puisqu'en fait, la plus grosse centrale nucléaire, celle qui a 6 groupes, comme on dit, qui est installée à Zaporoïe et sur le territoire aujourd'hui russe, c'est la plus grosse centrale d'Europe. Il n'y en a aucune, on n'a aucune centrale de 6 groupes aussi importante. Et il s'est passé que la Russie et donc les experts de Rosatom, de l'énergie atomique russe, sont venus prendre en main cette centrale, l'ont arrêtée pour éviter qu'elle soit bombardée.
Ouais.
Et il se trouve que chaque fois qu'il y a eu des attaques contre cette centrale, alors qui n'ont pas abouti heureusement, mais qui ont tiré autour, qui tirent un peu dessus, etc., M. Grossi faisait l'innocent. Monsieur Grossi était en train de faire croire que c'était les Russes qui se tiraient à eux-mêmes des coups de missiles sur leur centrale nucléaire. Voilà. Ils prenaient les gens pour des imbéciles. Monsieur Grossi est un vendu à la cause ukrainienne et américaine. C'est tout à fait clair. Et il a fait ça. Alors, chaque fois, alors c'est un peu calmé ces derniers temps, mais chaque fois qu'il y a eu des attaques contre Zaporoïe, il y en a eu beaucoup depuis 2022, il a dit la même chose. Il a fait comme s'il ne savait pas d'où ça venait. Et sous-entendu, c'est forcément les Russes. Ben oui, les Russes sont des fous furieux. Ils se tirent eux-mêmes des balles dans le pied. Voilà, on connaît. Voilà. Donc, je voulais insister sur ce personnage louche, même pas louche, c'est un agent des États-Unis qui est vendu à la cause sioniste. Et je voulais rappeler qu'on est aussi dans l'histoire de ces organismes. Il y a dans la nébuleuse des organisations internationales une autre organisation qui est aussi discutable et discutée, qui est l'organisation contre la prolifération des armes chimiques. Et je reviens sur ce qui s'est passé en Syrie. Il n'y a pas si longtemps, du temps où il y avait un gouvernement en Syrie, qui n'était pas un gouvernement d'égorgeurs. Ce qui s'est passé, c'est que la Syrie avait effectivement dans ses stocks des armes chimiques. Mais elle n'était pas le seul, il y a plein de pays qui ont des stocks d'armes chimiques. La France a déjà des stocks d'armes chimiques, etc. Bon. Et la Syrie n'avait pas signé un accord d'interdiction des armes chimiques. Donc il a été monté une provocation.
Et pourtant, l'État d'Israël possède l'arme chimique.
Oui, bien entendu. Personne ne dit rien. Même chose que pour le nucléaire.
Ouais.
Bon. Donc il y a une provocation qui a été montée. On a vu tout d'un coup apparaître sur les écrans des gens affalés par terre qui auraient été attaqués par le régime, comme on disait, de Bachar el-Assad, avec des armes chimiques. On dit, regardez ce que fait le gouvernement syrien à son propre peuple. Alors, la Russie a vu venir la difficulté et a conseillé à la Syrie, ce qu'elle a fait tout de suite, de signer la convention sur l'interdiction des armes chimiques et à démolir son stock d'armes chimiques.
Elle s'en débarrasser,
voilà.
Oui.
Ce qu'elle a fait, et pour la petite histoire d'ailleurs, ce stock a été déposé sur un bateau états-unien,
oui,
et ça a été brûlé en mer quelque part en Méditerranée.
Oui. Bon,
j'espère qu'il n'y a pas eu trop de vapeur pour les riverains, mais on n'en a pas beaucoup su plus. Bon. Et donc, On avait la même situation, donc, d'une provocation montée sur la question des armes chimiques. Et donc, l'organisme de protection contre les armes chimiques a envoyé des inspecteurs sur place qui ont produit un rapport dans lequel ils disaient « Mais non, c'est pas le gouvernement syrien qui a fait ça ». Et il faut savoir que le directeur général du dit organisme international sérieux a fait exactement le même travail que M. Grossi. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout fait, mais il a interdit la publication du rapport des inspecteurs qui avaient dit « mais la Syrie n'y est pour rien, c'est un coup tordu ». C'est l'intérêt de rappeler ces histoires-là, ça veut dire que ces institutions qui sont soi-disant faites pour maintenir la paix et faire des contrôles techniques concrets et obligés des États sont totalement noyautés par la diplomatie américaine. On ne met à leur tête que des gens pas clairs, pas honnêtes, et donc on arrive à les dévoyer totalement. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec M. Grossi à l'AIEA, c'est passé de la même façon à l'organisation des armes pour l'interdiction des armes chimiques. Voilà. Bien, alors je vais, puisqu'on est presque au bout, je vais remplacer l'intervenant qu'on devait avoir.
Oui, voilà, pour... c'est mieux.
Oui, oui, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il s'agissait d'une petite chose, mais ça fait partie du monde propagandiste dans lequel nous vivons. Il y a donc dans les hôpitaux de l'AP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, un hôpital qui s'appelle Corentin Celton. Alors, ce n'est pas un nom que vous connaissez forcément, mais quand on donne le nom de quelqu'un à un hôpital, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un d'important et d'intéressant. Alors, qui était M. Corentin Celton? Ben voilà, M. Corentin Celton était un résistant, c'était un employé, un simple employé, pas un médecin, pas un brancardier, pas un infirmier, c'était un simple employé de cet hôpital qui, pendant la guerre, a fait son travail. Il a fait son travail, mais comme en plus il a participé à la résistance, alors c'était un militant syndical communiste dans son hôpital, comme il a participé à la résistance, il a été enlevé par les nazis, par les SS, et il a été cloué au pied d'un mur au Mont Valérien, comme toute l'équipe de Manous Manouchian. C'est ça. Alors ce qu'a fait Annie Lacroix-Rie, notre historienne favorite, c'est que voyant une exposition qui était dans le hall de cet hôpital Corentin Celton, on ne parlait pas de Corentin Celton et de ce qui lui était arrivé pour finir, elle est allée, alors je ne sais pas si elle a fait ça, elle nous l'aurait dit elle-même, avec un feutre, avec un pinceau, et elle a écrit « Ce monsieur a été éliminé par les nazis, abattu au Mont Valérien. » Il y a une fiche pour lui dans le dictionnaire du mouvement ouvrier, le Métron, qui est tout à fait clair, et elle a signé Annie Lacroix-Rie, et elle a mis son petit commentaire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a signé, elle a mis son nom, je pense qu'elle a fait ça très très proprement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le responsable des matériels, des locaux plutôt, lui a envoyé une amende de 85 euros pour dégradation dégradation d'édifices publics. Alors, elle réagit en disant bien sûr, je vais la payer, mais enfin, vous faites un drôle de travail. Et donc, elle a écrit à la directrice générale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris en disant vous avez quand même de drôles de façons de traiter l'histoire. Ce monsieur était respectable. J'ai simplement rappelé qu'il avait été fusillé pour fait de résistance, qui méritait au moins un coup de chapeau de l'hôpital et de l'APHP. Mais évidemment, et elle ajoute mais comme il était résistant et communiste, ça ne plaisait pas, il ne faut pas le rappeler. Je l'ai rappelé, je n'ai fait que mon devoir d'historienne. Je déplore que la PHP n'honore pas un de ses fidèles serviteurs qui est mort au combat pour la libération de la France. Voilà. Voilà. Donc elle ne nous l'a pas raconté elle-même, mais c'était important que vous le sachiez. Je pense que ça... Alors je ne sais pas si ça aura des suites, parce que c'est simplement l'idée de marquer le coup, et simplement les suites que ça aura, enfin, pas liées directement à cet incident, c'est que nous aurons à l'antenne Annie Lacroix-Rie le mois prochain, le deuxième mercredi, je pense que c'est le 11, le 9 ou le 11
août.
Oui, non, juillet, qui nous parlera du dernier livre qu'elle vient de publier, qui s'appelle « Industriels et banquiers français sous l'occupation ». Alors, qui est la réédition largement augmentée d'un ouvrage qu'elle avait déjà publié sous le même titre. Alors, c'est une réédition en format de poche, mais elle a tellement trouvé de nouvelles sources et de nouveaux chefs d'accusation pour les industriels et les banquiers français de la collaboration que le bouquin ne fait pas moins de 1000 pages. Donc, énorme travail dont elle est la seule capable, d'ailleurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle trouve des sources d'archives nouvelles, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc., elle rajoute, elle vérifie si elle a bien visé juste dans son travail précédent. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter Annie Lacroix-Ry le mois prochain, à l'antenne, le deuxième mercredi du mois, à 20h. Voilà, c'est le 9, voilà. Hein, c'est bien que tu l'aies précisé. Voilà ce que je voulais dire avant de... Ben on va peut-être passer une petite musique de clôture qui s'appelle Canta... Hein, voilà, qui s'appelle Canta Camarada. Alors je situe l'auteur, s'appelle, c'est M. Zeca Alfonso. Il est très célèbre au Portugal parce que c'est lui qui est l'auteur de la chanson Grandola Vila Morena qui a donné le signal de la révolution des œillets. Mais il a écrit cette autre chanson qui est moins connue, qui s'appelle Chante Camarade, parce que comme effectivement Corentin Celson, effectivement quelquefois les camarades, même avant de mourir, chantent et se serrent les coudes et se donne du courage en allant à la bataille pour défendre l'indépendance et la liberté de leur pays. Voilà. Merci Jules dans tous les cas et on se retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle édition des Carnets de Comaguerre et le suivi de la guerre en cours entre l'Iran et les puissances occidentales.
Ça va durer.
Canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta, que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Faca de ponta, se hei de morrer amanhã, se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta, morra hoje tanto monta. Na ponta de uma navalha, toda a vida hei de dizer, toda a vida hei de dizer, morreu o homem na batalha, morreu o homem na batalha. Viva a morte e trema a terra, viva a morte e trema a terra, daqui ninguém herdou, daqui ninguém herdou. Quem há de tremer na guerra, quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou. Canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta. Que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Faca de ponta, ou uma faca de ponta. Se hei de morrer amanhã, se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta, morra hoje tanto monta. Thank you. Morreu o homem na batalha, morreu o homem na batalha.